Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, juste un mot pour annoncer l'épisode d'aujourd'hui qui est consacré à la masse dans les armées et au retour des conflits de haute intensité et plus particulièrement à la situation des armées françaises face à cette perspective. D'abord pour dire que c'est un épisode qui va être diffusé en deux parties parce que c'était une discussion qui était vraiment très longue et très dense, ça a duré plus de 2 heures avec deux grands habitués du podcast qui sont par ailleurs très vifs et qui parlent très vite, à savoir Elie Tenenbaum et Joseph Enrotin. Alors, donc on va pas faire un épisode mammouth de plus de 2 heures hyper dense, d'autant qu'en ce moment on est à 2 épisodes par semaine, on a pu repasser à 2 épisodes par semaine, et que ce serait dommage que certains auditeurs passent à côté de cet épisode par manque de temps, parce que c'est une discussion qui est très riche et qui fait le tour d'une question vraiment tout à fait centrale qu'est la haute intensité. On pourrait d'ailleurs dire qu'on ne parle de rien de moins que l'avenir des conflits contemporains, ce qui mérite bien 2 émissions, et même 3 en fait, puisque l'épisode des têtes chercheuses de vendredi dernier, avec Hugo Meyer, en parlait aussi directement, à travers l'angle de l'autonomie stratégique européenne. Donc, première partie aujourd'hui, avec Elie et Joseph pour placer le problème en quelque sorte, c'est-à-dire le retour de la perspective de haute intensité sur un fonds de réduction des volumes des armées depuis des décennies, et disons les grosses limites auxquels on commence à se heurter par rapport à ça, notamment en France. Et mardi prochain, donc, on parlera des pistes pour s'en sortir et pour s'y adapter, et on aura le plaisir d'avoir aussi la contribution de Stéphanie Pézard, qui est chercheuse à la Rand Corporation. Enfin, dernière chose, évidemment tout ça a été enregistré avant les tensions entre France, Royaume-Uni et États-Unis autour de l'affaire des sous-marins australiens, ce qui était l'objet de l'épisode de mardi dernier. Ce qui fait que vous ne trouverez pas de mention de ces événements dans l'épisode, même si ce dont on discute, notamment ce dont on discutera dans la deuxième partie, autour de la perspective des coalitions, est bien évidemment en lien avec l'actualité. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du retour à la haute intensité des capacités militaires françaises et de la problématique de sa masse, de la masse en général, j'ai le plaisir de recevoir deux grands habitués du podcast que sont Elie Tenenbaum et Joseph Enrotin, vraiment deux des analystes dont on a le plus souvent le plaisir d'entendre les réflexions à ce micro. On va d'ailleurs essayer de ne pas parler trop fort, sinon on prend le risque qu'Olivier Schmitt ou Jean Michelin passent par là et déboulent dans le studio pour ne pas se faire doubler au nombre de passages dans le collimateur. Alors, Elie Tenenbaum, je vais rappeler que vous êtes le directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et qu'on avait déjà récemment eu le plaisir de vous recevoir au printemps pour un long entretien en 2 parties avec Marc Ecker autour du livre que vous aviez fait paraître à ce moment-là, consacré à la guerre de 20 ans, à la guerre contre le terrorisme depuis le 11 septembre, même si vous remontiez bien avant. J'envoie donc évidemment à ces longues émissions autour d'un livre qui le valait bien, qui accumule d'ailleurs depuis les récompenses et les prix depuis quelques semaines. Félicitations. Je signale par ailleurs que vous coordonnez aussi les excellentes études que sont les focus stratégiques de l'IFRI, et c'est notamment ce focus stratégique numéro 105 qui va nous intéresser aujourd'hui, consacré à la masse dans les armées françaises, signé par Raphaël Briand, Jean-Baptiste Florent et Michel Pesqueur, 3 militaires qui étaient à ce moment-là en détachement à l'IFRI, comme ça arrive parfois à des officiers, assez souvent en fait, un aviateur, un marin et un terrien, qui ont regardé la question chacun depuis leur angle, mais je crois que certains sont repartis dans leur poste originel et que vous avez par ailleurs signé l'introduction de cette étude, ce qui fait que vous pouvez en parler parfaitement dans sa globalité. Donc, bienvenue à nouveau dans le collimateur, Elie.
Merci, Alexandre.
Et Joseph Enrotin, je ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même, puisque vous êtes le rédacteur en chef de notre cher partenaire, le magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale. Alors évidemment, les auditeurs vous connaissent, parce que vous venez régulièrement nous présenter les différents numéros de DSI dans le cadre de ce partenariat. Mais ici, le dernier numéro avait une résonance particulière, puisqu'il est sorti dans l'été un hors-série, le numéro 79, consacré aux armées françaises et à leurs capacités, et où cette question de la masse est tout à fait centrale dans le cadre du retour à la haute intensité. Vous y signez d'ailleurs un papier, au tout début, très poétiquement intitulé « Et le bonsaï redevint chêne, option pour une masse renouvelée ». Donc bonjour Joseph.
Bonjour.
Et enfin, je vais signaler qu'interviendra également dans cette émission Stéphanie Pézard, qui est chercheuse à la RAND Corporation, qui a signé il y a quelques mois un rapport pour la RAND, qui est rédigé avec Michael Shurkin et David Oshmanek, sur les capacités des armées françaises, mais vues depuis le point de vue américain. C'est toujours intéressant de s'observer un peu à travers les yeux des autres, surtout d'autres qui vous connaissent bien, ce qui pose évidemment la question de la place de l'armée française dans ses alliances et ses coalitions. Alors, c'est un peu compliqué techniquement de faire un direct à travers l'Atlantique avec des invités en studio. Par ailleurs, c'est jamais très agréable pour la personne qui est à distance comme modalité de participation à la conversation. Mais c'est donc un entretien que j'ai déjà enregistré, qu'on insérera dans l'émission et sur lequel on rebondira, évidemment. Alors, je dois dire qu'il y a parfois des sujets qui s'imposent dans l'actualité de la réflexion stratégique, et ça a été le cas pour cette question de la haute intensité, du retour possible vers les conflits de haute intensité. Alors, je vais le dire très schématiquement, vous me corrigerez largement, mais globalement c'est la perspective que des grandes puissances s'affrontent plus ou moins directement en sortant des conflits asymétriques comme on les connaît depuis au moins 20 ans, du type France au Sahel, OTAN en Afghanistan ou États-Unis en Irak, où les capacités militaires entre adversaires sont donc très inégales, même si évidemment l'actualité récente et même un peu moins récente nous montre que le déséquilibre des forces ne garantit pas la victoire. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qui se passe si on se met à se taper dessus un peu directement avec la Russie ou les États-Unis avec la Chine, dans le Pacifique par exemple. Et quelles limites les armées françaises pourraient rencontrer dans ce genre de conflit, notamment la question de la masse, ce qui est une formulation un peu cryptique mais qu'on va très vite détailler. Et donc au début de l'été, on a vu en quelques semaines à la fois ce focus stratégique de l'IFRI, le rapport de la RAND, et suivi ensuite par le hors-série de DSI, qui en traitaient tous très directement. Pour autant, je vais finir en ajoutant que c'est un sujet qui est dans l'air depuis un moment. On sait que le général Lecointre, donc l'ancien chef d'état-major des armées, en a pas mal parlé au moment de son départ, au début de l'été, notamment dans les pages de ce hors-série de DSI, mais aussi face à la commission de la défense. Et en fait, bon, pour ceux qui s'intéressent un peu à ce genre de spectacle télévisuel, un général devant des parlementaires, ça se regarde pas forcément comme une série Netflix, mais je peux témoigner qu'on y prend goût petit à petit. Donc les plus mordus de ce genre de prestations savent que ça fait des années que c'est une question centrale pour absolument tous les chefs d'état-major de toutes les armées dès qu'ils passent devant des parlementaires. Donc ma première question serait que vous nous disiez à quand remonte cette préoccupation, ce souci stratégique renouvelé de la haute intensité, c'est-à-dire d'un affrontement entre grandes puissances, et pourquoi on se met à s'inquiéter à nouveau de ça, puisque, bon, bah, disons-le, à la louche, c'est une perspective qui semblait s'être éloignée, au moins depuis la fin de la guerre froide. Je ne sais pas qui veut commencer. Joseph Enrotin ?
Voilà, je vais me permettre d'ouvrir le feu, au moins rhétoriquement. En fait, je pense que cette notion de masse, elle a, dès les discussions autour du livre blanc de 2008, donc dès 2007, très rapidement été évoquée. Sauf que les arbitrages qui ont été passés à ce moment-là...
Donc le livre blanc, je vais préciser à tout hasard que c'est ce grand document que les armées françaises sortent régulièrement pour dire comment elles envisagent leurs capacités et aussi la situation stratégique. Et le livre blanc de 2008 a beaucoup déterminé la trajectoire budgétaire qui arrivait après.
Voilà. Et ce livre blanc de 2008 a déjà suscité un certain nombre de critiques. On se souvient du groupe Surcouf, par exemple, qui disait, voilà, on risque d'aller vers une armée échantillonnaire. Quid en cas de dégradation de la situation internationale et des changements de structure de l'ordre international. À côté de cela, on a un autre livre blanc qui sort en 2013 qui approfondit encore un peu plus les coupes. Et notamment sur un certain nombre de capacités importantes pour la haute intensité. Capacité pontonnière, capacité du génie, capacité antiaérienne, etc., etc. Mais ça, on va dire que c'est plutôt l'aspect institutionnel des questionnements sur fait-on bien de faire ce que l'on va faire ?
C'est-à-dire de sabrer toutes ces unités qui, en fait, serviraient s'il y avait de la haute intensité.
Exactement. Et en fait, le coup de rappel, c'est 2014. Ce sont les opérations russes en Ukraine, la prise de la Crimée, l'annexion de la Crimée, et puis ensuite le retour, finalement, d'opérations dures, avec des tirs massifs d'artillerie, etc., dans l'est de l'Ukraine, qui sont appuyés directement par les Russes. Et là, on se dit que, quelque part, la guerre n'est plus la perspective, on va dire, à l'américaine, d'une éventuelle confrontation avec la Chine face aux pires compétiteurs tels que les Américains l'envisagent dans les années 2000, la guerre redevient une réalité européenne. Et là, évidemment, tout de suite, on commence à s'interroger, alors en France, mais un peu partout ailleurs en Europe aussi, sur ces modèles, finalement, de réduction homothétique des forces, où on en arrive petit à petit aux armées bonsaï. Hein, je pense que c'était Guillaume Lascongérias qui avait utilisé ce terme-là, qui me semble assez approprié, où finalement, on a un peu tout.
Bonsaï, c'est un petit arbre bien plein, mais tout petit, quoi.
Mais voilà, exactement. Donc, il y a toutes les branches, il y a tout ce qu'il faut, quelque part, mais pas avec une densité, pas avec une masse suffisante que pour faire face à de gros problèmes.
Élie Tannenbaum ?
Ouais, alors, on a tout de suite posé pas mal de sujets et de termes sur lesquels on va revenir pour définir. Il y a effectivement la problématique de la masse, là, dont Joseph parle, qui a été perçue par chaque armée, parce qu'en fait, dans chaque pays, parce qu'en fait, c'est une trajectoire assez largement commune au moins aux pays occidentaux, que cette réduction homothétique dont parle Joseph à l'instant, sur cette réduction qui nous donne des armées où on a un peu de tout, mais un peu uniquement. Et puis, une autre problématique qui est connexe, qui est effectivement celle de la haute intensité ou de la transformation de la conflictualité. Ce qu'on vient, c'est d'un moment unipolaire, post-guerre froide, où les États-Unis sont effectivement la seule grande puissance militairement apte à projeter ses forces, avec des partenaires occidentaux qui sont de fait intégrés dans toutes les perspectives, dans les schémas de coalition. Et c'est à l'aune de ce rapport de force quasi géopolitique, en fait, pas uniquement militaire, que on va se dire, finalement, plus de guerre majeure prévisible, la nature de la conflictualité compte tenu des équilibres de la répartition de la puissance militaire dans le monde, ça sera de la conflictualité asymétrique, et pour ça on n'aura pas forcément besoin d'armées qui sont dimensionnées de la même manière que quand il s'agissait de faire face au pacte de Varsovie, et donc effectivement l'artillerie, l'arme blindée cavalerie, un certain nombre de quantités aussi dans la marine et dans les armées de l'air ne seront plus forcément nécessaires. Et donc on a une trentaine d'années finalement de conflictualité effectivement asymétrique, avec des armées qui se transforment au fur et à mesure pour correspondre un petit peu à ce qu'elles font au quotidien, à ce qu'elles imaginent qu'elles pourront faire à l'avenir. Et en même temps, à partir du tournant, c'est difficile à dater, mais à partir du milieu des années 2000 et surtout du tournant de la décennie 2010, on a clairement en fait un mouvement de rééquilibrage de la puissance militaire à l'échelle globale, avec en fait un certain nombre de pays qui ont profité de la globalisation économique et technologique avec très clairement un effet de rééquilibrage ou de redistribution. On pense évidemment à la montée de la Chine qui est le plus iconique, mais en fait globalement ce qu'on estime, c'est ce que certains cabinets de conseil aujourd'hui en économie appellent les E7, c'est-à-dire les 7 pays émergents qui, à terme, devraient, en termes de poids économique, remplacer les pays du G7, qui étaient ceux les plus dominants dans les années passées. Et ce rééquilibrage de la puissance géoéconomique, géotechnologique, se traduit aussi par un rééquilibrage, une redistribution de la puissance militaire, et donc derrière, forcément, une transformation de la manière dont on se projette sur la conflictualité future, en disant, demain, ce ne sera pas uniquement face à des adversaires purement asymétriques qu'on va lutter, mais face à des adversaires qui, au moins en termes de puissance globale, auront des éléments symétriques. Ça ne veut pas dire que dans l'affrontement effectif, on sera en one-on-one ou de manière totalement frontale. On pourrait imaginer de la conflictualité indirecte entre puissances, comme disait Joseph, pire compétiteur, c'est-à-dire entre pairs, P-A-I-R-S, mais forcément ça va transformer les choses. Et donc c'est de là que naît l'idée d'un retour d'une haute intensité qui forcément va sans doute rappeler aussi un certain nombre de capacités militaires qui ont été coupées et donc cette logique de la masse avec le rapport aux pertes, le rapport au nombre et en fait quand on commence à regarder sur des équations tactiques en disant bah en fait quand on est face à des adversaires qui ont un peu les mêmes capacités que nous, qu'est-ce qui nous distingue? Mais il y a un moment ou un autre, ça va être aussi le nombre, le volume, la masse, la quantité. Alors après, on pourra distinguer tous ces termes. Mais donc, c'est ça aussi qui transforme l'équation de puissance.
Mais alors, ma question, c'est sur quel scénario on imagine? C'est-à-dire, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Comment est-ce qu'on imagine? Parce que si on prend de la haute intensité avec des adversaires à peu près équivalents, il n'y en a pas des wagons à la France. Il y en a quelques-uns et c'est des très forte puissance, et par ailleurs, c'est des puissances généralement nucléaires. Et donc, c'est un peu le problème. Ça fait des décennies qu'on répète à tout le monde, depuis globalement l'école primaire ou le collège, que c'est l'intérêt d'avoir l'arme nucléaire et d'avoir la dissuasion. C'est que précisément, on n'en arrive pas là à se taper dessus parce que tout le monde a trop peur d'un affrontement nucléaire, ça dégénérerait automatiquement. Donc voilà, est-ce que ce cadre stratégique-là, cette réflexion-là, on la jette aux orties, on dit pas si, on va quand même se taper dessus, ou est-ce que c'est à l'intérieur, on fait cohabiter les deux. Joseph Arantin ?
Alors oui, juste pour dire qu'en fait, on est dans des logiques de sédimentation successive de menaces, ce qui fait que l'arme nucléaire, elle continue à dissuader un certain nombre d'États qui ont l'arme nucléaire, mais cela n'empêche pas, d'une part, ces États de pouvoir agir d'une manière un peu plus indirecte, typiquement la Russie, ce qu'on a vu en Ukraine, et d'autre part, ça ne va pas dissuader des États qui connaissent une montée en puissance, mais qui n'ont pas l'arme nucléaire. Dans le cas de l'Iran, par exemple, dans le cas de l'Algérie, on voit bien qu'il y a des densifications militaires qui sont en train de s'opérer. L'Algérie, 6 sous-marins avec des missiles de croisière. Quand on prend un compas depuis la Méditerranée et qu'on trace un petit peu la portée de ces missiles de croisière, il y a des choses qui sont qui touchent directement le territoire national. Donc il y a de vraies questions de ce point de vue-là, avec derrière cela évidemment la question de la stabilité à long terme de ces États. Donc oui, il y a les puissances nucléaires, et il faut du coup garder l'armement nucléaire, mais en même temps il faut garder de l'armement conventionnel pour protéger le nucléaire, l'un ne va pas sans l'autre, il y a une vraie corrélation des forces, mais à côté de ça on se retrouve avec des États conventionnels, on va dire, dotés d'armement conventionnel, qui sont en train de monter en puissance. Et à cela, il faut encore rajouter une autre dimension qui ne rentre pas nécessairement dans la haute intensité, mais qui reste problématique dans nos engagements, notamment en Afrique, c'est le fait qu'on fait de plus en plus face à des techno-guérillas. C'est-à-dire que la guérilla qu'on a en face de nous est une guérilla qui est de plus en plus dense technologiquement et qui va aussi appeler un certain nombre de réponses d'ordre technologique. Et on voit bien que un certain nombre de matériels relativement avancés qu'on va utiliser pour combattre des adversaires réguliers, des États pairs ou quasi-pair, ces matériels-là seront aussi utiles finalement pour lutter contre des irréguliers en phase de montée en puissance également.
Alors, la question de la confusion autour du terme de haute intensité, de quoi on parle exactement, et du coup de l'articulation avec le nucléaire est essentielle, parce qu'en fait, il y a deux choses dont on parle dans l'imaginaire collectif quand on véhicule la haute intensité. En fait, les gens, globalement, ils ont les références qui sont celles des guerres mondiales, et puis avant ça, des guerres napoléoniennes, la guerre de sécession, de guerre totale, qui, en fait, combinaient deux formes d'intensité, à la fois une intensité politique très haute qui touchait, où on avait deux adversaires qui, chacun percevait comme leurs intérêts vitaux étant engagés dans leur... dans le conflit, et également qui étaient des acteurs sur le plan capacitaire étaient extrêmement capables. C'est-à-dire qu'en gros, ils utilisaient à peu près tout ce qui se faisait à un moment donné en termes de technologie, de performance des combats. En fait, on avait donc l'enjeu de l'intensité politique et de l'intensité capacitaire. En vrai, ces deux enjeux peuvent être décorrélés. Par exemple, au Sahel, on a des groupes terroristes qui mènent une guerre de très haute intensité politique, leurs intérêts vitaux sont en jeu parce qu'en gros ils jouent leur peau, clairement, et puis ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition, mais ces moyens ils sont pas énormes. Et donc, sur le plan capacitaire, on est sur effectivement des conflits de moyenne ou de basse intensité capacitaire. Et inversement, on peut imaginer des conflits, il y en a eu par le passé, y compris pendant la guerre froide, où on a une haute intensité capacitaire, mais où sur le plan politique, on est dans ce qu'on appelle de la guerre limitée, où les intérêts vitaux ne sont pas directement en jeu. Je prends un exemple qui est frappant, c'est la guerre de Corée dans les années 50, où on n'est pas sur une guerre totale, où les intérêts vitaux des États-Unis sont considérés comme en jeu. Et d'ailleurs, au moment où MacArthur va commander des bombes nucléaires, des frappes nucléaires sur son adversaire, et ben, Truman va siffler la fin de la récréation en disant non, on n'est pas à ce stade-là. Mais en revanche, on est évidemment sur un degré de mobilisation de moyens militaires qui est extrêmement élevé et sur des types de conflictualités dont on n'a plus du tout l'habitude en Europe. Et si on regarde un petit peu plus proche de nous, voilà ce que la Russie a fait en Géorgie en 2008, par exemple, ou ce qui s'est passé encore plus près de nous entre l'Arménie et le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, et ben on est sur en fait des modèles de conflits de haute intensité capacitaires, mais qui sont pas forcément des guerres totales qui, dans le cas où des puissances nucléaires seraient engagées, toucheraient directement aux intérêts vitaux et donc au déclenchement de ce seuil-là.
Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on pourrait avoir envie de se taper très fort dessus, mais dans un coin un peu éloigné du monde, et que du coup, on n'en viendrait pas à amener de l'armement nucléaire non conventionnel.
Et où un des acteurs ne serait peut-être pas la grande puissance, c'est-à-dire ça pourrait être une puissance régionale soutenue par une grande puissance, elle, nucléaire. Et donc là, tout à coup, on verrait effectivement des scénarios où on aurait à la fois un acteur étatique, capable, avec une armée construite qui tire vers le haut du spectre capacitaire, avec tout ce qu'on peut imaginer, des drones, de l'artillerie longue portée, des flottes de surface et de sous-marins, et de l'aviation évidemment, et puis une puissance moyenne ou grande, nucléaire ou non, comme la France ou d'autres, qui seraient engagées directement face à ça. Et ça, évidemment, on est sur des scénarios qui sont à la fois très exigeants sur le plan capacitaire et en même temps qui restent en deçà du seuil des intérêts vitaux et donc de la mise en jeu de la mécanique de la dissuasion. Guarantee you'll meet up with the suicide bomb. Hell broke loose. Hell broke loose. Big fucking ditches in the middle of the road. You pay $100 just for filling in the hole. Listen to the general every goddamn word. How many ways can you polish up a turd? And left, right, left, left, right, left, right, hell broke loose. Hell broke loose. Hell broke loose. How is it that the only ones responsible for making this mess got their sorry asses able to a goddamn desk? And hell broke loose.
Donc là, on voit bien en quelque sorte le contexte, l'environnement stratégique et dans les scénarios un peu fictifs qu'on se fait pour se poser cette question-là. Si maintenant on repasse un petit peu à la question des capacités, notamment des capacités de la France, est-ce que vous pourriez nous donner donc les dimensions de ce rétrécissement en quelque sorte des armées françaises ? Alors on sait que c'est... Bon, ça commence évidemment avec la chute du mur de Berlin, ce qu'on a parfois appelé les dividendes de la paix, c'est-à-dire l'idée que... Bon, puisqu'il n'y a plus les communistes qui risquent de faire défiler des chars soviétiques sur les Champs-Élysées, bon, bah, on va peut-être se calmer un peu parce qu'il n'y a pas besoin d'arrêter ces chars-là et on peut peut-être faire plus de choses avec moins d'argent. Voilà. Mais à quel moment s'est fait ce rétrécissement? Et aussi, à quel point est-ce que ça a été en quelque sorte conceptualisé et assumé par les décideurs cette idée que, bon, bah voilà, on va arrêter, le gros ennemi n'est plus là, on va essayer de faire autre chose au moins pendant un temps?
Bon, Joseph. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'on commence vraiment à le conceptualiser. Alors, politiquement, on commence à le conceptualiser assez tôt, en fait, hein, très rapidement. Après la guerre du Golfe, 91, là, on se rend compte qu'il y a des modernisations qui sont à faire dans l'appareil de défense, au niveau du renseignement, au niveau des forces spéciales, etc. Il y a toute une série de choses, finalement, qu'on n'avait pas vraiment regardées dans les années 80, mais vers lesquelles il va falloir aller. Ça, c'est un premier mouvement. Dans le même temps, on se rend compte qu'effectivement, il faut une déflation des effectifs, on commence à réfléchir à la suspension du service militaire, etc., bon, qui est quand même un gros pourvoyeur d'hommes, hein, et qui dit masse, dit notamment ressources humaines importantes. Donc il y a toute une réflexion qui se fait. 94, le livre blanc. Là, on voit qu'on commence à diminuer. Et c'est un mouvement qui, finalement, va être itératif, à la fois sous la pression, je serais tenté de dire, alors Élie pourrait me contredire, mais je pense qu'il y a une pression à la fois managériale, c'est-à-dire les dividendes de la paix, faire des économies, très simplement.
Le terme de dividende n'est pas totalement inintéressant, voilà. Si on parle de la confusion du vocabulaire managérial au milieu stratégique, disons.
Voilà. Et très clairement, dans le livre blanc de 2008, il y a également cette dimension managériale. Donc il y a une vraie continuité en la matière, qui fait que petit à petit, bah, les programmes qu'on envisageait comme très costauds, bah, on les rabote. Alors le Charles Leclerc, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 80, quand on lance le programme du Charles Leclerc, on envisage 700-800 chars. Bon. Bah, aujourd'hui, on est à 224, et les chars qui vont être modernisés in fine seront 200. Donc bah, voilà, on passe déjà d'un rapport de 1 à 4, sachant que bah, tous les AMX-30, évidemment, ne sont plus, là. Donc on a vraiment une déflation extrêmement violente. Même chose au niveau des cibles de Rafale, où on voit bien que... Alors, la déflation a été moins violente. On n'est pas dans un rapport de 1 à 4 par rapport à ce qui était prévu au niveau des Rafales. Mais on voit bien que, d'année en année, de loi de programmation militaire en loi de programmation militaire, on rabote. Petit à petit. Et donc, on a cette itérativité-là qui est pensée effectivement par rapport à des aspects managériaux, qui est pensée aussi par rapport à des aspects organiques. Parce que si vous avez moins de chasseurs, bah, forcément, quelque part, il faut moins de ravitailleurs, il faut moins de mécanos, il faut moins de tout ce qui fait tourner une force. Moins de chars, bah, ça veut dire moins d'appui, moins de ceci, moins de cela. Et donc, une chose en entraînant une autre... Au regard également de la vision qu'on a des relations internationales, du fait qu'on se dit à un moment donné, bah tiens, on va peut-être revenir vers l'OTAN, etc. Donc on va travailler beaucoup plus en coalition. Et donc du coup, si on travaille en coalition, bah, on répartit la charge de travail. Donc on n'est pas forcément obligé d'investir autant. Hein, rien n'est plus coûteux qu'une armée neutre, en fait, hein, en termes de masse de matériel et ainsi de suite. Et donc in fine, bah, voilà, c'est un processus itératif et qui génère lui-même, finalement, à un moment donné, sa propre dynamique et qu'il est difficile d'inverser.
Élie Tenenbaum,
si vous permettez, j'ai envie de prendre encore un peu plus de champ historique et de prendre du recul. Et en fait, moi, il me semble, si on prend vraiment la longue durée, que la place de la masse n'a cessé de croître, en gros, à partir des guerres de la Révolution et de l'Empire, jusqu'en 1945, où, globalement, celui qui parvenait à gagner, in fine, pas forcément la bataille, mais la guerre, c'était quand même celui qui arrivait à aligner les plus gros bataillons, le plus grand nombre de chars, d'avions, de porte-avions, etc. Un exemple que je cite dans un article, c'était l'opposition entre les Tigres 1 et 2 de la Wehrmacht et les Sherman M4. En gros, les Américains avaient estimé
vous
que...
Vous échapperez pas à la référence à Fury, évidemment, qui est un film qu'il faut voir et qui voilà, montre et bah, ça parfaitement.
Alors, le combat mythique entre les deux chars, mais en gros, les Américains estimaient que oui, il fallait... Le Tigre était un tank bien supérieur à celui du Sherman et que statistiquement, il leur fallait 6 Sherman pour détruire un Tigre. Mais les Américains, eux, produisaient à peu près 60 fois plus de Sherman que l'Allemagne était capable de le faire. Et donc, finalement, c'est aussi comme ça qu'ils ont gagné. Donc, d'une certaine manière, le plus l'emportait...
Au bout d'un moment, il faut ensevelir un tigre sous les Sherman, il faut le monter dessus. Enfin, c'est la stratégie des Ewoks.
Excellente référence. Mais cette logique de la quantité, un moment, a commencé à poser problème, d'abord financièrement et puis politiquement, après 1945. Et celui qui a posé de manière le plus claire, c'était Eisenhower, devenu président, ex-général justement qui connaissait bien ce dilemme pour avoir commandé les forces alliées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui disait tout ça nous coûte beaucoup trop cher, parce que face aux Soviétiques qui, eux, effectivement, mise à fond sur la quantité, sinon on veut pouvoir compenser, on transforme nos pays, les États-Unis d'abord, mais aussi les pays de l'OTAN, en état garnison, hein, c'est la problématique en sciences politiques du garrison state, qui finalement fait peser un vrai danger sur nos démocraties, sur nos trajectoires budgétaires, etc. Et Eisenhower, élu par le parti républicain, est un avocat de la rigueur budgétaire. Il dit ça peut pas continuer, la dérive. D'ailleurs, il dira dans sa fameuse allocution avant de quitter le pouvoir, mettra en garde les Américains contre le complexe militaro-industriel, phrase qui est restée célèbre, y compris chez les conspirationnistes, mais pour montrer à quel point il se méfie de cette masse et de ces quantités. Et c'est lui qui va pousser ce qu'on appelle le New Look dans les années 50 pour dire on va essayer d'avoir une forme de stratégie de compensation pour réduire la quantité et la compenser par de la qualité en puissance de feu, en précision, en technologie. Et à l'époque, c'est la doctrine des représailles massives, et notamment de dire ce qu'on ne peut pas faire dans le conventionnel, on va le compenser avec le nucléaire, et en fait, ça va nous coûter moins cher. Et donc, on ne va pas chercher à avoir une équivalence quantitative face aux soviétiques.
Alors ça, on peut dire que c'est un truc qu'effectivement on va revoir pendant toute la guerre froide, c'est-à-dire cette idée que le camp occidental va régulièrement se dire bon, au jeu de la masse, on va pas trop gagner parce qu'il y en a, il y a quand même du monde en Russie, ils ont des grosses capacités industrielles, et donc il va falloir faire mieux avec moins. Alors ça va être le New Look, ça va être plus tard la révolution dans les affaires militaires. Enfin, ça va être l'idée qu'avec de la technologie, on va être plus efficace pour faire face à la masse des communistes.
Absolument, c'est ce qu'on appelle la offset stratégie que Joseph connaît bien mieux que moi. Mais le second moment où c'est très très frappant, c'est après le Vietnam dans les années 70, où là aussi c'est la révolution de la technologie de l'information, cette fois-ci à l'intérieur du champ conventionnel, où les Américains vont se dire on a un trade-off, une compensation, où même dans le champ purement conventionnel, on va pouvoir avec moins faire mieux parce que on va avoir une qualité technologique avec les frappes de précision dans la profondeur et donc compenser. Tout ça, dès les années 70-80, on sent, y compris aux États-Unis, que ça touche ses limites. C'est l'édiction de la fameuse loi d'Augustine, qu'il faut quand même citer ici parce que c'est vraiment, on est au cœur du sujet. Donc Norman Augustine, qui était secrétaire à l'US Army dans les années 80 sous Reagan, et qui sera ensuite PDG de Lockheed Martin, qui présidera la fusion entre Lockheed et Martin Marietta, édicte sa loi. Il dit finalement, à budget de défense constant, l'Amérique en 2050 pourra se payer le meilleur avion de chasse au monde, mais elle pourra s'en payer qu'un seul, parce que financer, et c'est là où on est au cœur de la problématique, financer la modernisation, donc la montée en gamme qualitative de vos matériels par la réduction des formats, ce qu'on fait en fait depuis 1945, il y a un moment où vous avez un point limite où vous arrivez à des formats qui sont tellement réduits qu'ils deviennent sous-efficients, avec des économies d'échelle, avec une sensibilité à l'attrition qui devient énorme. C'est-à-dire que si vous avez un seul avion qui fait tout, mais le jour où vous le perdez, vous passez de tout à rien, et évidemment avec le problème de l'ubiquité.
Mais alors, donc on voit bien que c'est un mouvement de fond, c'est une philosophie qui est profondément implantée dans l'esprit collectif des armées occidentales depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui vient se cristalliser à la chute du mur de Berlin, à l'effondrement de l'URSS, avec l'idée que enfin on va pouvoir y aller, quoi, on va pouvoir réduire, j'ai pas envie de dégraisser le mammouth parce que c'est pas une bonne expression, mais c'est l'idée quand même. Et simplement, je donnais quelques chiffres qui concernent l'armée française pour aller dans le sens de ce que disait Joseph. C'est que entre 1991 et 2021, on a deux fois moins d'avions de combat en France. On passe de un peu moins de 700 à 250. On a deux fois moins de grands bâtiments de surface dans la marine. On passe de 40 à 20. Et on a cinq fois moins de chars de bataille. On passe de 1300 à 220. Ce qui est par ailleurs un truc totalement cohérent avec le contexte général des pays européens. Ils ne dégraissent pas tous autant que la France, mais c'est la réduction.
Certains dégraissent plus.
Certains dégraissent plus, certains dégraissent moins.
En moyenne, les doigts.
Voilà.
Les Belges, les Néerlandais.
Mais alors, la question, c'est une fois qu'on a ce constat-là, si on fait le bilan aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu à l'heure actuelle pour un conflit de haute intensité? C'est-à-dire, j'imagine bien que ça n'a pas été complètement oublié par les généraux, parce qu'on sait qu'ils en parlent régulièrement. Et qu'est-ce que la France est capable de proposer si jamais, il y avait un engagement de haute intensité majeur, disons dans le voisinage. Joseph ?
Alors oui, alors c'est sans doute Élie qui a les chiffres précis en tête, mais ce qu'on appelle hypothèse d'engagement majeur, en fait, doit se voir sur plusieurs plans. Le premier, c'est le volume, effectivement, des forces qui vont être effectivement engagées. Bah, pour la marine, par exemple, c'est le groupe aéronaval, c'est deux portées, les PHA, donc les portées hélicoptères amphibies, c'est six frégates, sept frégates, ouais. Quelque chose comme ça. Oui, frégate, voilà. 45 appareils de combat, des ravitailleurs, des appareils de détection aérienne avancée et deux brigades blindées, si je ne dis pas de bêtises. Alors attention, il y a toujours quand on parle de format de force et de système de force, il y a une dimension temporelle. Combien de temps va-t-on mettre pour rassembler tout cela, d'une part, parce que tout n'est pas opérationnel en permanence. Il y a ce qu'il y a en parc, sur le papier, on va dire, dans les annuaires, et puis après, il y a ce qui est réellement utilisable. Et puis, d'autre part, il y a la durée de l'engagement, parce qu'évidemment, à un moment donné, ben, voilà, il faut des rotations et ainsi de suite, et il faut être capable d'assurer ça. Donc, concrètement, ben, voilà, vous avez le... en gros, si je n'ai pas dit de bêtises...
Élie, ouais. C'est quoi
ce
format
ce qui incite d'ailleurs à une distinction entre que nous essayait de faire dans le focus stratégique que vous avez cité, entre la masse en brut, ou la masse en puissance, et la masse opérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toujours une masse, quand vous regardez les effectifs de vos armées, l'armée de terre à 110 000 hommes, et puis en fait, il y a ce qui est effectivement déployable à un moment donné, et là, on est sur beaucoup moins. Et donc, dans l'hypothèse d'engagement majeur, qui est l'un des contrats opérationnels fixés par le politique aux armées, c'est-à-dire...
Donc les contrats opérationnels, c'est le politique qui dit « il faut que vous soyez capable de faire ça, absolument. Parce que politiquement, nous absolument. Qui prenons les décisions, on veut que notre armée soit capable de faire ça ».
Et ensuite, on peut rentrer sur la manière dont construit un contrat opérationnel, la sincérité effective de ce contrat opérationnel, ce qui dérive en fait de l'enveloppe budgétaire que le politique s'est fixée. Officiellement, c'est pas comme ça que ça se construit, mais bon, on sait bien que ça fait partie du jeu.
Ah oui, la théorie, c'est on veut pouvoir faire ça, dites-nous combien ça va coûter, et en fait, dans la réalité, ça ressemblerait plus à dites-nous combien ça va coûter, mais on attend. Quoi.
Voilà, exactement. Il faut rentrer les drones dans la valise. Donc, il y a à la fois l'analyse de la menace, les scénarios d'engagement, en disant, bah, finalement, si vous voulez vraiment regarder ce qu'il y a tout en haut de la pile, voilà ce qu'il nous faudrait.
On va prendre un peu en dessous de la pile.
Là, vous avez le décideur et puis les gens de Bercy qui blanchissent et qui commencent à dire, non, mais bon, là, on va quand même essayer de trouver des hypothèses un peu plus optimistes. D'où une vraie question sur la sincérité de cette hypothèse d'engagement majeur. Et je Joseph en parlait à l'instant sur la question de la temporalité, c'est-à-dire que l'hypothèse d'engagement majeur, aujourd'hui telle qu'elle est construite, elle se fait avec un préavis de 6 mois, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir monter en puissance. Et on a différents cas, dont par exemple le porte-avions, on sait bien que sa permanence à la mer n'est pas totale. Et donc, si le conflit arrive juste au moment où le porte-avions entrerait en hyper, eh ben, il nous faut quand même un peu de temps pour pouvoir le réactiver.
En réparation, en hibernation, voilà, c'est-à-dire il faut en permanence réactiver. Il n'y en a qu'un, donc il faut, de temps en temps, il faut le réparer, donc il n'est pas disponible.
Même régulièrement. Et donc, forcément, là, vous créez donc des biais en disant, bon, d'accord, vous aurez 6 mois de préavis. Évidemment, on sait bien que les guerres se déclenche pas toujours avec 6 mois de préavis. Et ensuite, ça, c'est pour durer pendant 6 mois non renouvelable. C'est très clairement comme ça que c'est construit. Et là aussi, on sait bien qu'un conflit n'a pas de date limite de péremption une fois qu'il est déclenché. Ensuite, on pourrait imaginer...
voilà. Donc à 5 mois et 3 semaines, tout le monde a un peu fait ses valises et s'en est rentré à la maison, ce qui est évidemment dans un conflit de haute intensité et pas forcément idéal.
Voilà, maintenant il faut évidemment fixer des cadres, et encore une fois, on est sur des hypothèses, qui sont des hypothèses avec d'autres variables qui pourraient jouer en cours de conflit.
Mais alors ça, c'est l'hypothèse d'engagement majeur, donc avec ce qu'on serait capable de faire maintenant tout de suite dans 6 mois. Mais même en dehors de cette hypothèse d'engagement majeur, je vais faire le père Fouettard 5 minutes, mais juste on peut dire qu'on a vu des limites, même hors de cette hypothèse, déjà dans ce qu'on est censé faire à l'heure actuelle. Alors c'est des choses qui sont soulignées régulièrement, mais par exemple dans le rapport de la RAND de Stéphanie Pézard et Michael Shurkin, dont on va reparler dans quelques instants, on peut dire par exemple des Serval en 2013-2014, on peut dire que les batteries d'artillerie César il n'y en avait pas assez. Donc il a fallu faire des opérations successives alors qu'on voulait faire des opérations simultanées, ce qui évidemment pose pas mal de questions dans un contexte de haute intensité. On peut dire aussi qu'il est de notoriété publique, par exemple, qu'il y a des problèmes avec les hélicoptères, dans les parcs d'hélicoptères des armées françaises, qu'on manque notamment de Tigres, des hélicoptères d'attaque au sol, ce qui fait qu'on est obligé parfois de déployer des gazelles, qui sont bien moins sûres et bien moins performantes dans des opérations, disons, risquées, et que d'une manière générale, il semblerait qu'on ait régulièrement des inquiétudes sur la quantité de munitions, des qu'on s'en sert en fait en OPEX, en opération extérieure, ce qui est valable apparemment absolument pour les trois armées. Donc à chaque fois il semble évidemment qu'on s'en sort parce qu'on fait face à des djihadistes légèrement armés, que voilà, face à des types en pick-up et avec des mitrailleuses semi-lourdes, bon, on peut se débrouiller d'une manière ou d'une autre, mais évidemment vu ces limites là dans ce qu'on fait, ce qui est quand même très réduit par rapport à la haute intensité, on se dit que si ça en arrivait à la haute intensité, ce serait autre chose quand même. Joseph Arantin ?
Oui, alors peut-être juste un point, c'est le fait que les décideurs, d'une manière générale, ont tendance à se focaliser sur les gros matériels, entre guillemets, donc d'avions, de chars, de bâtiments, etc. Bon. En réalité, pour que tout ça fonctionne, non seulement il faut des lots de pièces de rechange et ainsi de suite, et très souvent, quand on sabre dans les budgets, on va sabrer dans les exercices, ce qui est déjà un mauvais signe, parce qu'évidemment, si on ne sait pas utiliser des matériels sophistiqués, ou si on les utilise moins bien, on ne peut pas pleinement les exploiter. Donc, du coup, la polyvalence s'en ressent, première chose.
C'est-à-dire qu'on envoie directement sur le terrain au lieu de s'entraîner autant qu'on voudrait.
Voilà. Et Sentinel, par exemple, a créé, de ce point de vue-là, une attrition, on va dire, dans l'acquisition des capacités des gars sur le terrain, quoi. Hein, parce que, on revient d'OPEX. Bon, évidemment, il y a un petit peu de repos. Après, il faut se réentraîner, mais il faut s'entraîner à toute une série de tactiques, de techniques, etc.
Ça veut dire que quand on fait le planton dans une gare, ou dans un aéroport, on ne peut pas exactement s'entraîner à la haute intensité en même temps.
Voilà, c'est difficile d'implanter le SENSUB en plein milieu de la gare du Nord, quoi. Voilà, et ce serait
pour
plus...
Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai
dit. Parce qu'on peut préciser aux auditeurs qui ne sauraient pas que Eli est spécialiste depuis des années maintenant des critiques sur l'opération anti-Sentinelle. Depuis un focus stratégique, d'ailleurs, je crois de l'IFRE à l'époque, qui s'appelait La Sentinelle égarée, qui avait posé les jalons, disons, de toutes les critiques que tout le monde déploie autour de Sentinelle depuis maintenant des années.
Voilà. Alors, à côté de ça, vous avez également les munitions. Et là aussi, comme il y a moins de visibilité politique, finalement, par rapport au gros matériel, les lots de munitions tendent à diminuer. Alors, quand on parle de lots de munitions, ça va aussi bien de l'obus de 76 mm des frégates que sur les missiles de croisière, missiles RR, etc. etc. Donc là, il y a de vraies questions, parce que quand on parle d'hypothèse d'engagement majeur, on parle de dizaines, de centaines de munitions tirées sur de courts laps de temps. Ces munitions, en fait, et d'ailleurs le rapport de l'IFRI le note très bien, ça ne se construit pas comme ça en un claquement de doigts. C'est 36 semaines pour un missile Mika. Parce que voilà, il faut réunir...
Hypothèse haute,
voilà. Il faut réunir le matériel, etc. La construction de ces systèmes prend du temps. Plus c'est sophistiqué, forcément, plus il y a d'intervenants et ainsi de suite. Et donc, in fine...
Vous voulez dire que pour construire des munitions, il ne suffit pas de pousser la manette sur la chaîne de montage?
Parce que vous avez un appareil productif industriel qui a été aussi calibré sur le niveau de le besoin et le carnet de commandes tel qu'on l'a fabriqué. C'est-à-dire que c'est pas comme effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale où vous aviez des usines avec des productions à la chaîne et vous pouviez augmenter la cadence en puisant aussi dans des ouvriers spécialisés qui étaient présents en nombre. Vous avez d'abord des sociétés qui sont en partie désindustrialisées, et puis des chaînes de montage pour du matériel notamment technique qui sont en fait quasiment du fait main quand on regarde les carnets de commandes. Donc en fait, vous ne pouvez pas remonter en puissance sur le plan de l'appareil productif comme ça. Et c'est le cas pour les munitions, et c'est évidemment le cas pour les matériels, les véhicules, les plateformes.
J'avais un exemple qui était assez parlant en visitant la canonnerie de Bourges. Hein, donc là où on fabrique les canons de 155.
Et notamment les canons pour les Césars.
Voilà,
c'est-à-dire les Césars, on va rappeler, c'est ces canons qui sont vraiment sur un semi-remorque, quoi, voilà. Ça permet de les déplacer. On pose la palette, il y a un camion qui sort, ce qui fait que c'est des canons qui sont très mobiles, qui sont très puissants, qui sont très performants. Tout le monde en dit beaucoup de bien. Il reste qu'apparemment, on n'en a pas assez.
Alors, on n'en a pas assez, mais alors la problématique de la remontée en puissance industrielle, c'est qu'à Bourges, par exemple, ils peuvent fabriquer 18 canons par an. Hein, donc vraiment le tube en métal qui est foré, forage après forage, etc., usiné, 18 par an. Donc ça veut dire que même si on disait tout à coup que voilà, il nous faut 3 régiments d'artillerie, voilà l'argent en cash, imaginons même qu'on ait les gens pour armer ces régiments, ben, on va être limité évidemment par la capacité annuelle à produire les canons. Voilà. Et refabriquer d'autres canonneries, c'est possible dans l'absolu, mais comme il le disait, il faut trouver des ouvriers spécialisés. C'est du compagnonnage, pratiquement. Hein. Voilà, ce sont des gens qui sont en enseignement par apprentissage, etc. Ça prend du temps avant d'être expérimenté sur ces choses-là. Et puis après, bah, il faut faire remonter en puissance l'outil industriel avec les machines-outils qui vont bien, etc., etc.
Et précisons que par ailleurs, c'est un truc hyper intéressant, même en cas d'école d'économie et de souveraineté. C'est que la particularité des industriels d'armement, c'est qu'on ne va pas passer des commandes en Chine, quoi. C'est vraiment un cas d'école d'industrie qui reste sur le territoire national pour des raisons évidemment très bonnes, mais que donc, on mesure toute l'inertie d'un système industriel dans un pays donné avec des normes de sécurité notamment données. Quoi.
Oui, d'autant que la supply chain, la chaîne de valeur aujourd'hui, elle est très complexe. Quand on parle de matériel, ou de toute façon, vous avez des processeurs qui viennent de microprocesseurs dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui viennent de tout un tas d'endroits dans le monde. Vous avez de toute façon une internationalisation de la chaîne de valeur sur les matériels complexes qui fait que vous ne pouvez pas être en contrôle souverain de bout en bout, en dehors de quelques matériels extrêmement précis et dont on a défini qu'on voulait avoir un contrôle total sur la chaîne de valeur, il y a déjà de toute façon une externalisation des achats sur étagère. Alors c'est pas forcément la Chine, on va pas tout de suite aller sur le pays où on serait le plus vulnérable, mais évidemment en Europe, aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui pose un problème sur tout le matériel, par exemple, qui s'achète auprès des Américains, c'est que dans des hypothèses d'engagement majeur où on serait vraisemblablement engagé en coalition, les commandes, on va les passer tous au même endroit, parce qu'en fait, un certain nombre des corps de bombes fabriqués aux États-Unis, et ben en fait, les Français vont en demander, mais les Britanniques vont en demander également, tous les alliés de l'OTAN qui seraient engagés en même moment. Et évidemment, les Américains seraient les premiers à se servir eux aussi. C'est des situations dans lesquelles on s'est retrouvés, très concrètement, pas dans des conflits de haute intensité, mais face à la guerre contre Daesh, à d'autres moments où, en fait, on s'est retrouvés à court de munitions, et on a dû se mettre dans la queue, si je puis dire, parce que tout le monde commandait au même moment un appareil productif qui, encore une fois, éliminé. Donc ça, c'est les questions de la consommation. Et un autre point dont on n'a pas parlé, mais qui a un facteur aggravant, aussi bien sur le plan de la capacité pure que sur le plan politique, c'est l'attrition. C'est la capacité à avoir des pertes.
Et alors ça, on en reparlera forcément. Mais alors, donc là, juste pour rester un instant là-dessus, on mesure bien que donc il y a d'énormes limites, c'est-à-dire, bon, tout le monde est à peu près d'accord que de la masse, il n'y en a pas assez si on retourne vers la haute intensité. Et ce qu'on vient d'établir de manière assez certaine, c'est que même si on voulait recréer de la masse, ce ne serait pas bien facile parce que ça implique des savoir-faire et, disons, une capacité industrielle qui n'existe pas, en tout cas pour remonter vraiment en puissance. La question, c'est quelle place, du coup, ce truc-là, ça a dans la réflexion militaire vraiment au quotidien. Je veux dire, est-ce que c'est une vraie hypothèse qui occupe, qui permet, qui infuse à tous les étages, ou est-ce que l'armée, c'est complexe, et puis il y a des trucs plus urgents, et est-ce que dans une certaine mesure, j'ai une hypothèse, quoi, mais est-ce que tout le monde est un peu occupé par Sentinelle et Barkhane et l'Indo-Pacifique? Et voilà, c'est un truc de grand chef quand il passe devant des parlementaires, il y a un plan dans un tiroir pour dire qu'on en a un. Ou bien est-ce que c'est un vrai souci quotidien chez les décideurs militaires, disons, qui remonte vraiment, voilà. Est-ce que c'est vraiment l'impératif du quotidien pour, en tout cas, les milieux militaires français?
Bah, Joseph Antoine. Moi, j'aurais tendance à dire que chacun à son niveau, évidemment, c'est un souci du quotidien. Parce que dans n'importe quelle unité, si à un moment donné, les effectifs qui sont jamais complètement complets, etc., ne sont pas utilisés de manière la plus efficiente possible, donc pour recréer de la vraie masse opérationnelle, comme le disait Élie, bah, tout de suite, ça marche moins bien. Y compris lorsqu'on n'est pas sur des hypothèses d'engagement type haute intensité, et ainsi de suite. Donc je pense que chacun cherche à optimiser au maximum, à rentabiliser, entre guillemets, au mieux ce qu'il a. Et à côté de ça, toutes les réflexions aujourd'hui sur sur la haute intensité dans les armées, ben, consiste en fait à se réapproprier cette question de la masse. Alors non plus au niveau de la section et de la compagnie, de savoir si tout le monde dans la section est bien là et que tout le monde a ce qu'il faut, etc. Mais cette fois-ci directement au plan opératif et au plan, et au plan stratégique.
Et littéralement ?
Oui, je pense que ça devient de plus en plus un sujet. Et ça, on le voit bien d'ailleurs dans les différents plans stratégiques, visions stratégiques qui sont évoqués dans les différentes armées. On a aujourd'hui des chefs d'état-major de chacune de nos armées qui, depuis quelques années, clairement, dans la foulée, j'ai envie de dire, de la revue stratégique de 2017, hein, qui était le premier document de cadrage depuis toujours, depuis le premier livre blanc de 1972, qui disait non, la menace est en fait en train de s'accroître, et y compris dans les dimensions les plus hautes et les plus exigeantes sur le plan capacitaire. Et donc, évidemment, c'est pris en compte. C'est pris en compte parce que les limites de notre modèle échantillonnaire de financement de la modernisation par la réduction des formats, tout le monde s'en est bien rendu compte. Et puis parce que, il faut le dire, il y a un effort de défense qui repart à la hausse, qui est sans doute insuffisant pour sincériser totalement nos contrats opérationnels aujourd'hui, mais ça va dans le bon sens et il faut quand même le signaler. Depuis, on va dire, l'actualisation de la précédente loi de programmation militaire en juillet 2015, quand il y a eu une actualisation, on est reparti à la hausse, et puis surtout sur la loi de programmation actuelle, avec les incertitudes que l'on connaît au-delà de 2022. Mais oui, je pense que c'est de plus en plus pris en compte. On pourra le dire dans la préparation opérationnelle, la future opération ou exercice Orion qui a été lancé initialement par l'armée de terre, qui aujourd'hui semble en bonne phase d'interarmisation, est un scénario de haute intensité. L'idée, c'est de se rapprocher un peu plus de la réalité de ce à quoi pourrait correspondre ce type d'engagement, pour pouvoir aussi ensuite derrière indiquer en disant là où il y a les plus gros trous capacitaires, il faut maintenant mettre les bouchées doubles et adapter le format.
Merci à toutes et tous, et rendez-vous donc mardi prochain pour la deuxième partie de cette discussion, où on parlera, disons, des sorties et des perspectives pour atténuer, pour mitiger, pour sortir progressivement de ce problème et de ces impasses pour les armées françaises et occidentales en général. Encore avec Joseph Henrotin et Littenbaum, et on aura aussi le plaisir d'avoir Stéphanie Pézard. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.